Chapitre 25. Mrs. Snagsby a tout deviné. L'inquiétude s'est glissée dans Cursitor Street, et le noir soupçon a pénétré dans cette région paisible. La masse des habitants de Cook's Court, pourtant, n'a rien changé à ses habitudes. Elle n'est ni pis ni mieux. Mais M. Snagsby n'est plus le même, et sa petite femme s'en aperçoit bien. Tom All Alones et Lincoln's Infield, sous la forme de coursiers indomptables, persistent à s'atteler au char fantastique qui poursuit l'imagination de M. Snagsby. M. Bucket les conduit. Joe et M. Tulkinghorn sont traînés par ces dragons infernaux qui tourbillonnent sans cesse devant les yeux du papetier, dans le magasin, dans l'arrière-boutique, partout. Même dans la petite cuisine où la famille prend ses repas et où, les voyant courir sur la table, ils s'arrêtent brusquement après avoir coupé la première tranche de gigot aux pommes de terre et fixent un regard plein d'effroi sur le mur de la cuisine. Quel rapport avait-il avec toute cette affaire? C'est là ce qu'il ne peut pas deviner. Il y a quelque part une personne contre laquelle on ourdit quelque chose. Mais qu'est-ce que cela peut être et qu'en adviendra-t-il? Quelle en sera la victime et de quel endroit le coup doit-il partir? Monsieur Snagsby le cherche en vain. L'impression que lui ont toujours fait éprouver les robes et les couronnes, les jarretières et les étoiles qui brillent sous la poussière qui les couvre dans l'appartement de M. Tulkinghorn, sa vénération pour les mystères que dirige l'avoué, sa meilleure pratique, surtout la plus discrète, le respect que d'un commun accord chacun témoigne au procureur dans Chancery Lane et dans tous les inns de la cour, le souvenir qu'il a lui-même conservé de l'inspecteur Bucket, de ses manières irrésistibles, de son index, de son titre, le confirme dans la pensée qu'il fait partie d'un secret dangereux dont il ignore la teneur. Et c'est précisément cette ignorance qui rend sa position si affreuse, car à chaque instant du jour, à chaque porte qui s'ouvre, à chaque coup de sonnette, à chaque lettre qui arrive, le secret peut éclater comme une bombe et faire sauter. Qui ? Il n'y a que M. Bucket qui le sache. Lorsqu'un inconnu entre dans la boutique, comme le font beaucoup d'inconnus, en disant « Monsieur Snagsby, y est-il ?», un violent battement de cœur ébranle la poitrine du papetier. Cette question le fait tant souffrir que, si elle vient d'un enfant, il se venge en tirant les oreilles du gamin par-dessus le comptoir et demande à ce vaurien ce qu'il entend par ses paroles et pourquoi il ne dit pas tout de suite le sujet qu'il amène. Il lui semble que tous les chalands s'entendent pour renouveler ses peurs et le terrifier par leurs questions sans nombre. Si bien qu'à l'heure où le coq de la laiterie de Cursitor Street annonce le jour, M. Snagsby se trouve plongé dans un affreux cauchemar et secoué vivement par sa petite femme qui s'écrie « Mais qu'est-ce qu'il a donc ?» Et sa petite femme n'est pas le moindre de ses embarras. Cette nécessité de lui cacher un secret, de se tenir toujours en garde pour ne pas se laisser tirer les vers du nez, donne à M. Snagsby, en présence de son épouse, l'air d'un chien qui a quelque chose sur la conscience et qui regarde n'importe où pour éviter l'œil de son maître, signe trop évident, hélas, que remarque la petite femme. C'est ainsi que le soupçon est entré dans Cursitor Street. Du soupçon à la jalousie, le chemin est aussi court et aussi naturel que le Cursitor Street à Chancery Lane. Et la jalousie a pénétré dans la maison du papetier. Une fois introduite, elle n'a pas eu grand-peine, elle éveille chez la petite femme une activité que rien n'arrête. Elle la pousse à l'examen nocturne des poches de M. Snagsby, à la lecture de sa correspondance, à des recherches dans ses livres de comptes, dans ses tiroirs, dans sa caisse, à faire le guet aux fenêtres, à écouter aux portes et à prendre tout de travers. Mrs. Snagsby est tellement alerte qu'au mystérieux craquement du plancher, aux frôlements inexplicables de vêtements invisibles qui bruissent perpétuellement dans l'ombre, on dirait la maison hantée par des revenants. Les apprentis supposent qu'il faut que jadis il y ait eu quelqu'un d'assassiné par là. Et Gasta, rassemblant les atomes dispersés d'une idée qu'elle a recueillie à Tooting, où il trottait dans la tête des orphelins, pense qu'il y a dans la cave un trésor gardé par un vieillard à barbe blanche qui est là depuis 70 000 ans sans pouvoir en sortir parce qu'il a dit son paternoster à rebours. Qu'est-ce que c'était donc que ce Nemrod, se demande continuellement la petite femme. Et cette lady, cette créature, et ce garçon, qu'est-ce que tout ça peut être? Nimrod est mort, cette lady est introuvable, il n'y a plus que ce va-nu-pied avec lequel il faut redoubler de vigilance. Mais qui est-il? Se répète Mrs. Snagsby pour la 1001e fois. Qui peut-il être, mon Dieu? Une inspiration saisit la petite femme. Il est sans respect pour M. Chadband. Oui, ça ne peut être que ça. Le saint homme lui avait dit de revenir demander son adresse afin d'aller le trouver. Mrs. Snagsby l'a entendu de ses propres oreilles, et ce vaurien n'est pas revenu. Pourquoi cela? Parce qu'on lui a prescrit de ne pas revenir. Et qui a pu le lui prescrire? Ah ah, Mrs. Snagsby a enfin tout deviné. Mais par bonheur, M. Chadband a rencontré hier ce vaurien dans la rue, et comme la conversion d'un pareil mécréant serait d'un prix inestimable et ferait les délices d'une congrégation d'élite, M. Chadband a saisi le vaurien et l'a menacé de le conduire à la police, à moins qu'il ne consentît à lui montrer sa demeure, et à prendre l'engagement formel de se présenter le lendemain soir chez le papetier de Cursitor Street. « Demain soir, » répète Mrs. Snagsby, en secouant la tête et en souriant d'un air pincé. « Demain soir, il viendra, et j'aurai l'œil sur lui, et sur quelqu'un. » « Ah, vous pouvez garder vos secrets aussi longtemps qu'il vous plaira, » dit la petite femme avec dédain. « Mais vous verrez que ce n'est pas moi qu'on peut tromper. » Le lendemain ramène les savoureux préparatifs en vue de la visite du révérend. Le papetier, en habit noir, descend au petit salon où les Chadband arrivent quelques instants après. Et quand le saint homme est rassasié, les apprentis et Gasta viennent se joindre à l'auditoire de l'éloquent personnage. Enfin, après eux, l'oreille basse, la tête inclinée, traînant une jambe, poussant une épaule à droite, à gauche, un pied en avant, un pied en arrière, et tournant dans ses mains crasseuses un lambeau de casquette fourrée qu'il épluche comme si c'était un oiseau galeux qui lui fût tombé du ciel et qu'il plumât avec ardeur avant de le manger tout cru, entre Joe, le dur à cuire, que M. Chadband a la prétention de convertir. La petite femme jette sur lui un coup d'œil attentif. Il a regardé M. Snagsby en entrant, et M. Snagsby l'a regardé. Pourquoi cela? Mrs. Snagsby le devine. Pourquoi M. Snagsby a-t-il un air confus et fait-il entendre derrière sa main une toux d'avertissement? Pourquoi? Mais il est clair comme le jour que M. Snagsby est le père de ce drôle-là. Que la paix soit avec nous, dit M. Chadband en se levant et en essuyant la transpiration huileuse qui couvre son visage. Que la paix soit avec nous. Et pourquoi cela, mes amis? Parce qu'elle n'est pas faite pour endurcir, mais qu'elle est faite pour attendrir. Parce qu'elle ne déclare pas la guerre comme l'oiseau de proie, mais qu'elle vient à nous comme la colombe. C'est pourquoi je vous répète, mes amis, que la paix soit avec nous. Avancez, jeune garçon. M. Chadband étend sa main grasse et flasque et la pose sur le bras de Joe, qu'il retient quelques instants pendant qu'il cherche où il devra le placer. Joe, qui a peu de confiance dans les intentions de M. Chadband, et qui s'est vu trop souvent empoigné de cette façon pour ne pas redouter les suites d'une pareille étreinte, balbutie entre ses dents « Lâchez-moi, je vous ai rien fait à vous, lâchez-moi donc !»« Non, mon jeune ami, je ne veux pas vous lâcher, » répond M. Chadband avec douceur. « Et pour quelle raison, mon jeune ami ? Parce que je suis un travailleur, un moissonneur, parce que vous m'avez été envoyé, et qu'entre mes mains vous devenez un précieux instrument. » Puissez-je, mes amis, employer cet instrument à votre profit, à votre avantage, à votre bénéfice, à votre bien-être, à votre fortune céleste. Asseyez-vous sur ce tabouret, mon jeune ami. Joe, qui s'imagine que le révérend va lui couper les cheveux, protège sa tête de ses bras et oppose la plus vive résistance aux efforts que l'on fait pour le placer comme il faut. Quand M. Chadband est enfin parvenu à l'ajuster comme un mannequin, le saint homme se retire derrière la table et lève sa main huileuse en disant « Mes amis !» Ainsi prévenu, chacun dans l'auditoire s'établit commodément. Les apprentis se donnent un coup de coude, Gasta ouvre les yeux et la bouche d'un air distrait. Elle est partagée entre l'admiration que lui inspire M. Chadband et la pitié qu'elle éprouve pour l'orphelin, dont l'abandon et la misère la touchent profondément. Mrs. Snagsby prépare en silence ses batteries. Mrs. Chadband se compose un visage de circonstance. Elle est auprès du feu et se chauffe les genoux, sensation qui lui paraît éminemment favorable à la réception fructueuse de la parole sacrée. Monsieur Chadband a pour habitude, lorsqu'il est en chair, de fixer du regard l'un des membres de son auditoire et d'entrer en communication particulière avec cet individu qui, cédant à sa propre émotion, laisse échapper à l'occasion un gémissement, un grognement, un bâillement, n'importe quel témoignage sensible d'une impression profonde, témoignage flatteur dont quelque vieille dame se fait l'écho fidèle et qui, se transmettant de proche en proche aux pêcheurs les plus inflammables de l'assistance, remplace les acclamations parlementaires et lance le vaisseau Chadband à toute vapeur. Il résulte de cette habitude que tout à l'heure, en commençant, le révérend a jeté les yeux sur le pauvre Snagsby et se prépare à faire de cet infortuné, déjà suffisamment confus, le bénéficiaire immédiat de son éloquente homélie. « Nous avons parmi nous, continue M. Chadband, un gentil, un païen, un habitant de Tom All Alone's, un vagabond sur la terre. Nous avons parmi nous, mes amis, et le saint homme, qui appuie le fait d'un mouvement expressif de l'ongle du pouce, envoie au papetier un sourire onctueux, signifiant qu'il va décocher à son adversaire un argument irrésistible dont il sera terrassé. Nous avons parmi nous un frère, un enfant sans famille, sans parents, sans bercail, dépourvu de toute ressource, n'ayant pas d'or, pas d'argent, pas de pierres précieuses. Et pourquoi, mes amis, vous dis-je qu'il est privé de tous ses biens? Pourquoi l'est-il en effet? M. Chadband adresse cette question au papetier comme s'il lui proposait une énigme entièrement neuve et qu'il le supplia de la deviner. M. Snagsby, fort inquiet du regard mystérieux que sa petite femme lui a lancé, précisément au mot « sans famille », répond modestement « Je ne sais pas, monsieur ». Interruption qui lui attire un coup d'œil flamboyant de Mrs. Chadband et de la part de Mrs. Snagsby, un « chut » à la fois énergique et indigné. « J'entends une voix, répond M. Chadband, une faible voix, il est vrai, car j'espère qu'on oserait l'affirmer. « Ah !» profère Mme Snagsby. « Une faible voix qui répond « Je ne sais pas. » Eh bien, je vais vous le dire, mes amis, ce jeune frère ici présent est sans or, sans argent, sans pierre précieuse, parce qu'il est privé de la lumière qui rayonne dans l'âme de quelques-uns d'entre nous. Et quelle est cette lumière? Quelle est-elle? Mes amis, je vous le demande. » Le révérend se rejette en arrière et fait une pause. Mais M. Snagsby ne se laisse pas tenter une seconde fois et garde le silence. M. Chadband se penche de nouveau sur la table et pénètre le papetier des paroles qui vont suivre et qu'il appuie du mouvement expressif de l'ongle déjà nommé. C'est, dit-il, le rayon des rayons, la lune des lunes, le soleil des soleils, l'astre des astres, c'est la lumière de la vérité. M. Chadband se redresse et jette un regard triomphant sur le papetier, comme pour lui demander ce qu'il pense de cette définition. « De la vérité, » reprend-il en s'adressant toujours au malheureux Snagsby. « Et ne me dites pas que ce n'est point la lampe des lampes, car je répondrai que c'est la lumière des lumières. Je vous le répéterai 100 fois, 1 million de fois, que cela vous plût ou non de l'entendre. Et moins vous y consentiriez, et plus j'insisterai. Et je prendrais un porte-voix, et je vous dirai que si vous vous élevez contre elle, vous serez renversé, flagellé, brisé, broyé, complètement écrasé. » Ce mouvement oratoire, dont la puissance est fort admirée par les disciples de M. Chadband, n'ayant pas seulement pour effet de mettre le saint homme dans un état de transpiration peu agréable, mais encore de présenter, par hypothèse, l'innocent papetier comme un ennemi de toute vertu, au front d'airain, au cœur de pierre, le malheureux Snagsby, de plus en plus accablé, essaye de rassembler ses forces qui bientôt vont le trahir. Quand M. Chadband lui porte le dernier coup, en reprenant son discours, après avoir épongé sa tête fumante avec son mouchoir de poche, qui semble s'allumer au contact et fume aussi chaque fois que le révérend s'en est essuyé le front. Mes amis, dit-il, reprenons le sujet que, dans la mesure de nos faibles moyens, nous cherchons à faire pénétrer dans vos âmes. Et demandons-nous, dans un esprit d'amour, en quoi consiste la vérité à laquelle je viens de faire allusion. Car si le médecin du corps me conseille le calomel ou l'huile de ricin, je demande naturellement qu'est-ce que c'est que l'huile de ricin ou le calomel. Je désire le savoir avant de m'administrer l'un ou l'autre de ces médicaments. Cherchons donc, mes amis, ce que peut être la vérité. Examinons d'abord la vérité simple, ordinaire, en costume de travail, en habit de tous les jours. Est-ce l'imposture, Madame Snagsby? Ah! Est-ce la dissimulation? Madame Snagsby tressaille et fait un signe négatif. Est-ce le silence? Dénégation prolongée de la part de Madame Snagsby. Non, tout cela n'est pas la vérité. Aucun de ces noms ne peut lui convenir. Et quand ce jeune païen, il dort, mes amis, le sceau de l'indifférence et de la perdition a fermé ses paupières. Gardez-vous de l'éveiller, car il est juste que j'aie à souffrir, à lutter, à combattre pour l'amour de lui. Quand ce païen endurci nous a fait ce coq à l'âne d'une lady et d'un souverain, était-ce la vérité? Non. Était-ce du moins la vérité tout entière? Non, mes amis, non. Pour soutenir le regard que sa petite femme plonge au fond de son être, et dont elle fouille les replis les plus cachés de son cœur, il faudrait que le papetier fût un autre homme. Aussi le malheureux ne peut-il que trembler et courber la tête en détournant les yeux. Car, mes jeunes amis, continue Chatband, en s'adressant à Gasta et aux deux apprentis, et en se mettant à la portée de leur faible intelligence, si le maître de cette maison, parcourant les rues de la ville, y voyait une anguille, et que de retour chez lui, cet homme, faisant venir la maîtresse de cette demeure, lui dit « Réjouissez-vous avec moi, Sarah, car j'ai vu un éléphant, serait-ce la vérité ?» Madame Snagsby fond en larmes. Ou qu'ayant vu un éléphant, il revint et s'écria « Hélas, je n'ai vu qu'une anguille, serait-ce la vérité ?» Madame Snagsby éclate en sanglots. Ou bien encore, poursuit M. Chatband, exalté par ses pleurs, supposez que les parents dénaturés de ce païen endormi, car n'en doutez pas, il a eu des parents, après l'avoir jeté en pâture aux loups et aux vautours, aux chiens sauvages, aux gazelles et aux serpents, fussent revenus à leur foyer, à leur pipe et à leur peau, à leurs airs de flûte et à leur danse, à leurs boissons, à leurs volailles et à leur viande. Serait-ce la vérité? Madame Snagsby est en proie à des spasmes d'une telle violence que tous les échos du voisinage retentissent de ses cris. Et finissant par tomber en catalepsie, elle est emportée dans sa chambre par l'étroit escalier. Après quelques instants de douleurs indicibles, qui produisent une consternation profonde parmi ses invités, on vient dire qu'elle ne souffre plus, mais qu'elle est excessivement faible. Ce qui permet à M. Snagsby, plus timide et plus déconcerté que jamais, de sortir de derrière la porte du salon où il s'était blotti, après avoir été plus ou moins écrasé lorsqu'on transporta sa petite femme à l'étage supérieur. Pendant tout ce temps-là, Joe est resté à l'endroit où il s'est réveillé. Il plume sa casquette et met dans sa bouche des lambeaux de fourrure qu'il crache ensuite d'un air repentant. Il sent bien qu'il ne sera jamais qu'un pêcheur endurci, et qu'il lui sera toujours impossible de ne pas dormir quand le révérend se met à prêcher, car jamais il n'y comprendra rien. Et cependant, pauvre Joe, il s'est accompli sur la terre des actes si touchants pour le salut des hommes, et l'histoire en est tellement simple que si tous les Chatband, s'écartant avec respect, laissaient rayonner jusqu'à toi la lumière qui émane de ce récit, assez éloquent lui-même pour se passer de tous leurs discours, tu resterais éveillé, Joe, et tu comprendrais cette parole, car tu serais attendri. Joe n'a jamais entendu dire qu'un pareil livre existât. Les évangélistes et le révérend Chatband ne font qu'un à ses yeux. Excepté pourtant qu'il connaît le révérend et courrait volontiers pendant une heure pour ne pas l'écouter 5 minutes. « J'ai rien à faire ici et pas besoin d'attendre », se dit Joe lui-même. « Monsieur Snagsby ne me dira rien ce soir. » Et il descend l'escalier. En bas, il trouve la charitable Gasta appuyée sur la rampe et s'efforçant de lutter contre l'impression qu'ont produite sur elle les cris de Mrs. Snagsby. Elle tient à la main son propre souper, un morceau de pain et de fromage qu'elle donne à Joe. Et pour la première fois, elle s'aventure à lui parler. « V'là un peu de quoi manger, mon pauvre garçon, lui dit-elle. « Merci, mamselle, répond Joe. « Avez-vous faim ?»«
Un peu. »
« Et vos pères et mères ? Quoi donc qu'ils sont devenus, hein ?» Joe s'arrête pétrifié au milieu d'un coup de dent qu'il donnait à son pain, car l'orpheline de Tooting lui a posé la main sur l'épaule, et c'est la première fois de sa vie qu'une main décente l'a touché de cette manière.
« Je les connais pas, répond-il.
Je sais rien d'eux. »«
Moi non plus, dit Gasta. Je ne connais pas les miens. »
Elle s'efforce de réprimer l'émotion qui la gagne, et tout effrayée d'un léger bruit qui se fait entendre, elle s'enfuit et disparaît en un clin d'œil.
« Joe, dit tout bas le papetier, me v'là, monsieur Snagsby.
Voici une autre demi-couronne, Joe. Vous avez bien fait de ne pas parler de notre course de l'autre soir et de cette lady que nous avons vue ensemble. N'en dites rien, Joe. Il en résulterait quelque malheur.
Je m'esbigne alors. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, Joe. » Un spectre en camisole et en bonnet de nuit glisse derrière le papetier jusqu'à l'entrée du salon et se dirige ensuite vers l'étage supérieur. Désormais, en quelque lieu qu'il soit, il est suivi d'une ombre qui n'est pas la sienne, mais qui n'est pas moins obstinée, et qu'il prenne garde aux secrets renfermés dans l'atmosphère où il passe, car sa vigilante petite femme la traverse avec lui, sa petite femme, les os de ses os, la chair de sa chair, l'ombre de son ombre.